Chers auditeurs de Radio Courtoisie, bonjour, bienvenue au Mardi de la mémoire. J'ai le très grand plaisir de recevoir aujourd'hui le père Bernard Ardura. Bonjour mon père.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes à Rome, vous allez vous présenter et expliquer à nos auditeurs quelle est votre fonction à Rome. Mais si je vous ai invité, c'est parce que vous êtes le postulateur, ou vous étiez, puisqu'ils sont maintenant béatifiés, vous étiez le postulateur de la cause de béatification des 50 martyrs du nazisme dont on a procédé à la béatification le 13 décembre dernier, 13 décembre 2025. Et c'est à ce titre que je vous ai invité, parce que je ne voulais pas que nous laissions passer tout de même cet événement religieux, parce que c'est avant tout un événement religieux, mais c'est aussi un pan de notre histoire extrêmement important à signifier à nos auditeurs. Alors, père Bernard Ardura, présentez-vous, comment devient-on postulateur d'une cause et que faites-vous non pas dans cette galère, mais que faites-vous à Rome?
Alors, je suis à Rome depuis 38 ans et demi.
Ah oui, vous êtes chanceux.
Voilà. Et depuis 1988, je suis consulteur historien du dicaster pour les causes des saints. Et alors, durant toutes ces années, j'ai passé une vingtaine d'années comme secrétaire du Conseil pontifical de la culture, et puis pendant 13 ans, jusqu'à l'âge de la retraite, qui est à 75 ans pour les responsables à la Curie romaine, j'ai été président du Comité pontifical des sciences historiques. Et puis, au cours donc de ces années, j'ai hérité de quelques causes de béatification, de canonisation, dont je suis devenu postulateur. Généralement, c'est le prix à payer à l'amitié, parce que nous sommes peu de Français résidant de façon permanente à Rome, et les postulateurs doivent résider à Rome pendant que la cause est instruite, donc dans la ville éternelle. Alors, j'ai été simplement sollicité par la Conférence des évêques de France, qui porte donc cette cause des 50 martyrs de l'apostolat catholique pendant la Deuxième Guerre mondiale. Je pourrais donner quelques indications qui concernent un peu l'itinéraire.
Bien sûr, oui. Bien sûr, alors au contraire, expliquez-nous comment ça fonctionne, parce que on se souvient que Benoît XVI avait quelque peu délocalisé, on va dire, les cérémonies. Et là, j'ai l'impression que ses successeurs sont restés sur la même décision.
Voilà, parce que Benoît XVI a voulu marquer la différence entre une béatification et la canonisation. La béatification, c'est une décision du pape qui autorise un culte liturgique de façon limitée pour les bienheureux. Par exemple, dans les diocèses ou dans les instituts, dans les diocèses où ils sont nés, dans les diocèses où ils ont eu leur activité principale, dans le diocèse où ils sont morts. Tandis que les saints, à l'occasion de la canonisation, voient leur culte étendu à l'Église universelle. Donc ils rentrent, si vous voulez, dans le calendrier donc de l'Église universelle. Et donc, la béatification est une étape. La béatification, alors, elle demande qu'il y ait une phase d'instruction. Vous voyez, le postulateur, il est en même temps un juge d'instruction et un avocat. Il doit réunir les témoignages et la documentation qui vont servir à prouver soit la sainteté de la vie, soit le martyr. Alors, dans notre cas, il s'agit donc de démontrer comment ces hommes, ces jeunes hommes, ont été martyrisés, c'est-à-dire ils sont morts en haine de la foi catholique. Et donc, il faut le montrer de la part du persécuteur, mais aussi de leur part à eux, que le persécuteur, d'un côté, ait voulu combattre la foi catholique en combattant ces hommes, et puis de la part des victimes, que ces hommes aient su, connu et accepté de mourir pour leur foi. Alors nous devons toute cette enquête à un homme, un prêtre du diocèse de Paris, Monseigneur Charles Molette, aujourd'hui décédé. Nous remontons là au début des années 1980. Il a découvert un certain nombre donc, de ces jeunes qui sont morts et il a commencé des recherches. Alors vous allez me dire, mais pourquoi sont-ils 50? Pourquoi pas 40? Pourquoi pas 60? Eh bien, les 50, ce sont ces martyrs pour lesquels Mgr Molette a réussi à réunir une documentation complète. C'est-à-dire que nous pouvons, avec la documentation à notre disposition et avec les témoignages que nous avons reçus et enregistrés, nous pouvons les suivre avant, pendant, après et jusqu'au moment de leur mort. Et après leur mort, grâce à des témoignages, on peut également documenter leur renommée de martyr. Voilà donc le tableau général.
Alors, si vous permettez, Père Bernard Ardura, je voudrais préciser à nos auditeurs que le livre, l'enquête première de Mgr Charles Molette, il avait publié, ou Fayard a publié en 1993 un ouvrage qui s'intitule « En haine de l'Évangile », donc par Mgr Charles Molette, et ce livre est toujours disponible, j'ai vérifié. Donc si les auditeurs voulaient se plonger dans ce travail précurseur, comme vous l'avez appelé, le livre « En haine de l'Évangile » aux éditions Fayard par Mgr Charles Molette est toujours disponible, avec d'ailleurs un long sous-titre digne d'un travail universitaire ou d'une thèse de doctorat je ne l'ai plus en tête, vous l'avez peut-être, mais qui est vraiment l'histoire de jeunes entraînés malgré eux dans des camps de la mort, enfin bon, il y a tout un les victimes de leur foi catholique. Donc voilà, je vous ai interrompu, pardon, mais parce que je voulais préciser cela, même si il y a plus récemment, à l'occasion donc de cette cérémonie de béatification qui a eu lieu à Notre-Dame de Paris le 13 décembre 2025, de nombreux autres ouvrages que les auditeurs pourront se procurer sur peut-être des ouvrages plus individuels sur certains de ces personnages.
Voilà, exactement. Et donc, Mgr Molette a réuni cet ensemble. Et puis, il faut retenir que ces 50 sont nés dans 30 diocèses français différents. Alors, évidemment, se poser la question de faire l'instruction de la cause, parce que donc, il s'agit là de constituer un tribunal, mais qui est un tribunal à but uniquement informatif. C'est-à-dire qu'il est chargé de recueillir les témoignages de personnes encore vivantes et toute la documentation. Il faut remarquer une chose aussi, c'est que ça devient très très compliqué lorsqu'il s'agit de faire dans 30 diocèses différents une enquête de cette envergure. Alors, il a été décidé que tout serait concentré à Paris, au tribunal de Paris, et que La conférence épiscopale serait la promotrice de cette cause. Alors, le procès diocésain a commencé en 1988 et il s'est poursuivi jusqu'en 2018. À ce moment-là, la cause est arrivée à Rome et à ce moment-là, j'ai été nommé postulateur. Grâce à une personne est malheureusement décédée, Madame Brigitte Bachet, qui était professeure de lettres et qui avait été la cheville ouvrière, en quelque sorte, avec Monseigneur Molette, a accepté de donner de son temps pour rédiger la position. Vous avez fait allusion tout à l'heure à un travail scientifique. Eh bien, la position, c'est une thèse. C'est une thèse. Alors, celle-ci fait quelque chose comme 600 pages, dans laquelle on va synthétiser l'ensemble de la documentation et des témoignages. Et pour cela, donc, il faut beaucoup de temps et il faut des capacités, en particulier des capacités d'historien. Et donc, cette position arrivée, elle est passée en 2024, successivement, devant les consulteurs historiens. Alors, les consulteurs historiens sont 6 et ils doivent répondre à 3 questions. La première, est-ce que les recherches d'archivistique et de bibliographie ont été exhaustives et élaborées scientifiquement? La deuxième, est-ce que les documents et les témoignages qui sont insérés dans la position sont dignes de foi historique? Par exemple, si on trouvait pour une personne qui a vécu au XIVe siècle la première biographie écrite en 1823, on pourrait se poser la question. Mais tout dépend de la documentation de fond, évidemment. Et puis, la troisième question à laquelle ils ont dû répondre est celle-ci. Est-ce que, à partir de la documentation et des témoignages qui ont été réunis, on peut vraiment démontrer que ces hommes sont morts en martyrs, c'est-à-dire en haine de la foi catholique? Donc, à l'unanimité, ils ont répondu oui aux 3 questions. Et de là, on est passé chez les consulteurs théologiens, qui eux sont 9. Et donc, eux, ils doivent répondre, alors vraiment, est-ce que l'on peut dire qu'ils sont morts en martyrs, et non pas pour des raisons politiques, par exemple? Ils ont répondu donc oui, et de là, on est passé au troisième barrage, si je puis dire, devant les cardinaux et les évêques qui sont membres du dicastère pour les causes des saints, qui doivent répondre à la même question. Et donc, ils se servent de tout le matériau qui s'est accumulé au cours des différents examens précédents. Ils ont été unanimes. Alors, à ce moment-là, le préfet du dicastère pour les causes des saints se rend en audience chez le pape, lui expose la problématique, et le pape donc a autorisé la publication d'un décret qui indique que ces hommes sont vraiment des martyrs, et il a autorisé que l'on procède à leur béatification.
Alors, un des premiers acte d'ailleurs de Léon XIV, puisque je crois que ça date de juin. Voilà, et donc lui, il a été, si je ne me trompe, élu en mai, le 8 mai.
Oui, hein, absolument.
Donc
c'est un des premiers actes du pontificat. Mm. Et donc, après, en discutant avec Monseigneur Ulrich, l'archevêque de Paris, nous avons conclu qu'il était très important que cette béatification est lieu dans l'année qui marque le 80e anniversaire de la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Et il était important d'inviter les évêques allemands. Alors, l'idée est venue de proposer au pape Léon XIV d'envoyer comme cardinal délégué un cardinal qui soit en mesure de parler le français et l'allemand. Alors, nous avons pensé au cardinal Ulrich, qui est archevêque de Luxembourg, et qui se trouve donc à la jonction entre la culture latine et la culture germanique. Et je dois dire que c'est ce qu'il a fait magnifiquement lors de cette célébration qui a réuni une quarantaine d'évêques, dont certains représentants de la conférence épiscopale allemande. Et en même temps, nous avons eu donc tous les prêtres qui représentaient parfois des évêques empêchés. Et nous avons eu là une grande manifestation d'église, un grand signe d'église et d'église catholique, c'est-à-dire universelle, qui dépasse les frontières et qui, 80 ans après l'horrible massacre qu'a représenté cette Deuxième Guerre mondiale, ouvre des perspectives d'avenir, des perspectives de pardon, de réconciliation et de paix.
Alors, Père Bernard Ardura, vous avez le merveilleux langage du prêtre, ce qui est évidemment votre rôle. Moi, je vais avoir celui de l'historienne, qui vous semblera peut-être plus terre à terre, mais qui restera historique. Et je dois dire que j'ai trouvé merveilleux et historiquement extrêmement important que cette béatification, comme vous voulez le dire, ait lieu lors du 80e anniversaire de la fin de la Seconde Guerre mondiale. Parce que cette béatification met le focus ou l'angle ou le projecteur sur des points qu'il est peut-être plus facile d'aborder maintenant avec le recul du temps. D'une part, quelle a été justement dans l'idéologie du national-socialisme la haine de la religion et au-delà de la haine de la religion, la haine de la religion catholique, qu'elle a été dans les réactions, la réaction des catholiques. Et je pense qu'un épiscopat allemand, 80 ans après, on le sait, a davantage de capacité de réfléchir et de réfléchir honnêtement qu'à la sortie de la guerre, c'est inévitable. On est aussi capable, je pense maintenant, parce que l'Église a montré combien l'antisémitisme était un fait qui lui était éloigné, l'Église est capable maintenant de bien montrer que les catholiques ont profondément souffert, sans pour autant que cela veuille dire qu'elle gomme l'idéologie profondément antisémite de l'idéologie national-socialisme. Enfin, il y a tout un recul du temps qui permet d'aborder beaucoup plus sereinement et du coup de façon beaucoup plus vraie ce qu'il s'est réellement passé.
Ah, certainement, certainement, mais vous avez parfaitement raison. Et d'ailleurs, il faut voir comment nous allons y arriver. Nous allons voir comment le régime nazi a pris des mesures explicitement contre les catholiques. Et de notre côté aussi, il faut voir comment, à l'époque, l'Église de France, dans un pays qui était complètement soumis aux occupants, il y a eu ce désir et la mise en pratique, oui, d'un apostolat que je vais essayer d'expliquer maintenant. Donc,
et qui est en plus un fait historique très peu connu,
parce que l'on peut très bien documenter.
C'est ça.
Il est peu connu, mais il est très bien documenté. Alors, il faut se rappeler une chose. Donc, c'est que, vu le nombre considérable de soldats allemands qui se trouvaient dans tous les pays occupés, l'Allemagne avait un besoin urgent et immense de main-d'œuvre. Et c'est pourquoi, en 1942, le régime de Vichy a invité, encore à ce moment-là, a invité des volontaires à partir pour travailler en Allemagne, essentiellement dans l'industrie, mais pas uniquement, mais essentiellement dans l'industrie. Évidemment, le nombre de ceux qui se sont présentés a été insuffisant, parce que l'exigence était d'environ 1 500 000 ouvriers qui auraient accepté de se rendre en Allemagne et qui auraient permis la libération d'environ 50 000 prisonniers. Donc, ceci a été un échec relatif, et c'est pourquoi le régime de Vichy a voté une loi le 16 février 1943. C'est la loi qui instaure le service du travail obligatoire. Donc, les jeunes entre 20 et 35 ans sont requis pour se rendre en Allemagne. Et donc, ils partent. Les uns volontairement, les autres malgré eux, et puis il y a ceux qui essayent d'échapper et qui rentrent dans le maquis. Mais donc, à ce moment-là, il y a deux hommes dans l'Église de France qui vont jouer un rôle fondamental, c'est le cardinal Suard, l'archevêque de Paris, et l'abbé Jean Rodin, qui sera comme le fondateur du Secours catholique. L'abbé Jean Rodin est un homme, un grand entrepreneur. Alors, il voudrait créer pour les prisonniers de guerre une aumônerie générale. Et puis, il pense avec le cardinal Suard qu'il faut penser à ces jeunes ouvriers qui se retrouvent en Allemagne, ils sont dispersés, la plupart ne connaissent pas la langue, et ils sont livrés à eux-mêmes. Ils vivent une grande épreuve de solitude. Et par conséquent, ils cherchent comment venir à leur aide en les soutenant humainement et religieusement. Et de là va venir l'idée de créer un groupe de prêtres, de religieux, de séminaristes, de scouts et de militants de l'Action catholique qui, eux, accepteront volontairement de se rendre en Allemagne comme ouvriers. Alors, on a un tel prêtre qui va s'initier au métier d'électricien, et d'autres qui ne sont pas spécialisés vont accepter de partir travailler dans une mine de potasse, etc. Et donc, ils partent, mais attention, ils savent qu'ils vont faire un apostolat clandestin, parce que le Reich a bien spécifié ces choses-là. D'abord, les prêtres allemands ne peuvent pas avoir de rapport, de relation avec les ouvriers requis. Certains vont braver cet interdit et ouvrir leurs églises, les laisser à la disposition. Et c'est pourquoi donc il y a un nombre consistant de prêtres. À un moment donné, le cardinal Suard va recevoir dans son archevêché de Paris 200 prêtres qui acceptent de partir clandestinement. Il y a donc parmi les 50, il y a 10 prêtres diocésains, 9 prêtres diocésains, il y a 5 religieux, un qui est prêtre jésuite et 4 jeunes frères franciscains. Puis, il y a 4 séminaristes et nous avons, si je me rappelle bien, 14 scouts. Et puis, tout le reste, ce sont des militants de l'Action catholique, essentiellement la JOC, la jeunesse ouvrière catholique. Et donc, ils partent pour être des apôtres clandestins.
Oui, pardon de vous interrompre. D'abord, je rappelle aux auditeurs de Radio Courtoisie qu'ils écoutent les Mardis de la Mémoire, qu'aujourd'hui, j'ai le très grand plaisir de recevoir le père Bernard Ardura, qui a été le postulateur de la cause de béatification des 50 martyrs du nazisme qui ont été béatifiés le 13 décembre 2025 dans une cérémonie officielle à la cathédrale Notre-Dame de Paris. C'est une cérémonie institue leur béatification dans le cadre donc d'un diocèse français, mais c'est une cause de béatification, comme vous nous l'avez expliqué auparavant, instruite à Rome, puisqu'il faut évidemment, vous nous l'avez montré, que cette cause passe de nombreux passages. Nous allons nous interrompre un tout petit moment pour une annonce de Radio Courtoisie.
Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance.
Chers auditeurs de Radio Courtoisie, nous reprenons donc le cours de notre conversation avec le père Bernard Ardura. Et si je vous ai interrompu, mon père, c'est d'abord pour rappeler aux auditeurs qui nous écoutent de quoi nous parlons, mais aussi parce que je voulais de votre part une précision. Cela veut donc dire que ces hommes qui partent, puisqu'il s'agit d'hommes, évidemment, ils partent dans le cadre du STO. Officiellement, ils sont des ouvriers volontaires pour le service du travail obligatoire. Donc, c'est une forme de résistance. Ils entrent en résistance de cette manière.
C'est une résistance spirituelle.
Mais exactement. Personne ne sait, lorsqu'ils arrivent en Allemagne, qu'ils sont prêtres ou séminaristes et qu'ils viennent pour cette raison.
Alors, il y a une petite exception, ce sont 12 franciscains de la région de Paris qui, eux, sont partis avec leur habit de franciscain, mais on leur a fait enlever lorsqu'ils sont arrivés à la frontière allemande. Alors, au moins, eux étaient identifiés, les autres, non. Chacun de son côté, eh bien, va essayer de repérer des jeunes. Il y a certainement parmi eux beaucoup de scouts, beaucoup de militants de l'Action catholique. Et alors, ils arrivent à se réunir. Ils se réunissent pour prier, pour réfléchir, pour s'entraider au milieu donc de cet enfer nazi. Et puis alors, ils vont organiser même des célébrations de la messe. Ils vont se débrouiller pour que, quand un prêtre a célébré la messe, eh bien, des hosties ou des parcelles d'hosties parviennent à ces jeunes et qui ainsi font la communion. Ce soutien qui a été à la fois humain et spirituel les a aidés, évidemment. Alors, tout ce groupement qui a été organisé par le cardinal Suard a pris un nom. Ce sera la mission Saint-Paul. Mission Saint-Paul, dont le but est précisément d'essayer de coordonner l'activité de ces apôtres clandestins. Naturellement, cette résistance spirituelle a fonctionné, même très bien fonctionné, et tant et si bien que les nazis s'en sont aperçus. Et alors, nous arrivons à un moment crucial dans cette cause de béatification. C'est le 3 1943 et publié une ordonnance de l'Office central de la sûreté du Reich, qui est sous le contrôle des SS et qui est dirigé par le docteur Ernest Kaltenbrunner. On parlera donc de l'ordonnance Kaltenbrunner. C'est un décret de persécution, explicitement, et explicitement contre les activités de l'Action catholique française parmi les travailleurs civils français en Allemagne. Les prisonniers de guerre étaient au moins théoriquement sous la protection de la Convention de Genève. Ils pouvaient même disposer d'aumôniers, tandis que les jeunes ouvriers du STO ne sont protégés par absolument rien. Alors, ce qui est important de noter, c'est qu'il y a donc des ouvriers qui vont pouvoir désormais se réunir et ne plus se sentir isolés et qui vont être soutenus dans l'épreuve. De l'autre côté, il y a aussi des ouvriers, des prisonniers de guerre qui volontairement vont accepter, selon l'expression, d'être transformés. De prisonniers, ils vont être transformés en ouvriers. Ils abandonnent de ce fait la protection de la Convention de Genève. Alors, il y a des prêtres, par exemple, qui vont accepter de se transformer en ouvriers pour pouvoir donc partager, eh bien, cet apostolat de tous ces jeunes. Leur moyenne d'âge, la moyenne d'âge de ces martyrs, c'est 30 ans à peu près. Le plus jeune meurt, il a 20 ans. Le plus âgé n'a pas encore 50 ans. C'est le père Billard qui est un prêtre jésuite. Alors, j'ai sous les yeux un petit témoignage d'un de ces jeunes militants d'Action catholique. Il écrit « Ce que nous voulions, nous jossistes et autres, avec nos prêtres qui ont accepté de partir avec nos camarades, ou bien les prisonniers de guerre, avec en particulier le scoutisme, c'était rayonner notre foi, notre idéal chrétien, pour que nos camarades, face à l'idéologie et à l'action du nazisme, face au dépaysement, face à la vie en commun, face à la débauche, restent des hommes dignes, des hommes debout, des hommes qui sachent dire oui quand il faut, non quand il fallait dire non, des hommes qui, au milieu des tentations de la chair qui ne manquaient pas, sachent rester fidèles à leur femme ou à leur fiancée. Alors n'oublions pas que parmi les bienheureux, au moins deux sont fiancés et un ou deux sont déjà mariés. Comme ils étaient ouvriers, ils recevaient un petit salaire et ils avaient 10 jours de vacances par an, au cours desquels ils revenaient en France. Alors, nous avons eu le témoignage d'une personne décédée il y a quelques années, qui était la fiancée d'un de ces jeunes. Et alors, elle pouvait rappeler comment, à la fin de ses 10 jours de vacances, elle, ses amis, ses parents ont supplié ce jeune de ne pas repartir. Eh bien, la réponse fut « Je ne quitterai, je n'abandonnerai jamais mes camarades. »
Oui, parce que vous faites bien, Père Bernard Ardura, de rappeler tout cela à nos auditeurs. On est dans un autre contexte que celui du contexte concentrationnaire d'un Maximilien Kolb, par exemple, qui, lui, de toute façon, est dans une situation de non-retour. Il est prisonnier dans un camp de concentration ou dans un camp d'extermination. Plus on s'avance dans la guerre, plus les deux mots, de toute façon, n'ont plus tellement de différence, mais là on est dans un système totalement différent d'apparence d'ouvriers volontaires qui partent dans des endroits où ils sont en semi-liberté. Hein. Ils sont dans un système qui, comme vous l'avez dit, est fait pour pallier à l'absence de main-d'œuvre en Allemagne et donc remplacer les militaires allemands qui sont dans les pays occupés ou sur le front. Donc ce sont effectivement des hommes qui bénéficient d'une certaine forme de protection et de liberté, sauf qu'ils y vont en mission commando, et cette mission commando, c'est une mission spirituelle. C'est fait pour porter au cœur de cet univers d'hommes la lueur, le message de la foi et de l'espérance.
Oui, certainement. Vous avez parfaitement raison. Et alors, il faut observer que, oui, à ce moment-là, ils sont dans cet univers. Mais l'univers concentrationnaire, ils vont tous le connaître.
C'est ça. Lors de leurs arrestations.
Et voilà. Parce que, donc, l'application de l'ordonnance Kaltenbrunner, elle va se faire. Et alors, il faut préciser que l'ordonnance spécifie, c'est spécialement donc sur tout ce qui relève de l'action catholique française. Et donc, c'est cela. Parce que l'Église catholique est considéré par les nazis comme leur ennemi numéro un, celle qui est la plus opposée. Alors donc, que disent-ils? Eh bien, je cite, « Qu'importe, nous continuons, notre inaction serait une trahison envers le Christ. » Je crois que c'est extrêmement intéressant parce que ils sont tous chacun avec son caractère, les uns un peu plus timides, mais les autres avec davantage un caractère plus expansif, mais tous ont ceci. Ils ressentent, c'est une citation dans une lettre, ils ressentent alors le devoir peut-être moins glorieux, moins empanaché, celui d'intensifier, dit-il, ma vie intérieure et de faire produire leur rendement spirituel maximum à ces quelques mois qui me restaient avant d'être à pied d'œuvre parmi l'agitation et les cliquetis de ferraille. Et donc, nous avons ces jeunes qui, peu à peu, vont être dénoncés. Ils vont être dénoncés, il faut le dire. Aujourd'hui, c'est 80 ans après. Certains vont être découverts par la Gestapo. Mais d'autres vont être dénoncés par des ouvriers eux-mêmes. Et certains étaient français. Et donc, ils vont être tous emportés vers des camps de concentration. Alors, c'est toute une litanie, c'est Dachau, c'est Mauthausen, etc. Et ils vont mourir de façon très différente les uns et les autres. Certains vont être tout simplement exécutés. D'autres vont être massacrés, je pense à l'un d'eux, qui est massacré à coups de planche par les capots. Je pense aussi, alors, au très grand nombre qui va mourir de typhus. C'est une lourde responsabilité que d'avoir créé ce qu'ils appelaient l'infirmerie, où évidemment même ceux qui étaient en bonne santé étaient contaminés. Et donc aucun moyen de les soigner, et il n'y avait non plus la volonté de les soigner. Et puis, d'autres vont mourir dans des convois, dans des fourgons à bestiaux. Et enfin, il y a tous ceux qui vont mourir dans ce que l'on appelait les sinistres marches de la mort. Donc, ils vont pratiquement tous mourir entre 44 et 45. Certains vont mourir même après la libération de l'Afghanistan. Il faut reconnaître aussi que la marche de la mort est terrible parce que les Allemands ont voulu vider les camps au fur et à mesure que s'approchaient les armées soviétiques. Et donc, au fur et à mesure, donc on ouvrait les portes des camps, et alors vous avez là 3000, 4000 hommes en mauvais état pour la plupart, et donc mis sur la route. S'ils étaient arrivés au bout, ils auraient dû faire quelque chose de entre 600 et 800 kilomètres. Et donc, au fur et à mesure qu'ils tombent d'épuisement, ils sont achevés. Je crois que c'est très important aussi, parce que cette façon de mourir est d'une grande cruauté.
Mais vous parlez de ces camps, ces marches de la mort. Oui. J'ai sous les yeux l'exemple de l'un d'entre eux, René Boîtier, qui était boucher en Seine-et-Marne, dont la marche vers la mort, sans jeu de mots, se fait justement au sein même des camps. Il est fait prisonnier, il prononce sa promesse scout en tant que prisonnier. Il va s'ouvrir à la... dans une démarche de foi, et effectivement, alors qu'il sera à Buchenwald, camp pourtant évacué en avril 45 par les Alliés, eh bien, il va faire partie des 5000 détenus envoyés par les Allemands dans ces marches de la mort, et il va mourir d'épuisement le 1er mai, donc moins d'un mois après la libération, entre guillemets, de son camp, d'épuisement, après avoir parcouru je ne sais combien de kilomètres. Son corps sera d'ailleurs récupéré dans une fosse commune et enterré dans son village natal de Seine-et-Marne. Donc on voit que il y a ceux qui sont partis avec la foi, et puis il y a ceux qui, grâce à eux, ont en plus, si ce n'est découvert, mais en tout cas augmenté leur foi et sont allés jusqu'au bout de ce qui pouvait leur être demandé au nom de leur foi.
Certainement. Et alors, vous savez, on ne devient pas martyr comme ça du jour au lendemain. Quand on fouille un peu la documentation et les témoignages que nous avons recueillis, on s'en rend bien compte, parce que j'ai sous les yeux cette note, une note très personnelle d'un des martyrs, l'abbé Pierre de Porcaro, un des plus connus des 50, du diocèse de Versailles. Il était séminariste encore. Quand il écrivait « Il faut que je devienne un saint », c'est le seul moyen de m'assurer plus tard un ministère fécond. C'est le seul moyen de sauver les âmes. Et puisque tel est mon désir, ma seule passion, il faut que je devienne un saint. Et alors, lorsque son évêque lui demande de rejoindre les jeunes du STO, qu'est-ce qu'il répond ? Oui, mon Dieu, j'accepte avec toute la générosité possible tout, y compris d'en mourir, de mourir sur une terre étrangère, loin de tout et loin de tous. Vous voyez, alors, ce sont des jeunes d'une trempe exceptionnelle. Je pense encore à un prêtre du diocèse de Lyon, aujourd'hui c'est Saint-Étienne, l'abbé Antoine Charmet. Il note dans le testament qu'il écrit: je m'abandonne à la volonté de Dieu en lui demandant d'y demeurer fidèle en prêtre. Et puis nous avons des jeunes comme le jeune scout Joël Anglaise d'Auriac. Lui, il est scout, il est originaire de Toulon. Lui, il est décapité à 22 ans, le 6 décembre 1944, après s'être confessé, avoir communié, prier le rosaire, et il déclare à l'aumônier de la prison: je suis tout tranquille car je vais à Jésus-Christ.
Oui, c'est bouleversant. Ce sont des témoignages merveilleux, de très beaux exemples pour la jeunesse. En tout cas, des exemples qui nous permettent de nous poser la question face à des situations à venir ou qu'est-ce que la vie nous réservera. Eh bien, c'est un petit peu la réflexion de la secrétaire d'Hitler du bunker dans le film La Chute. Un jour, alors qu'elle est âgée, elle passe dans les rues de Berlin, elle voit une plaque à la mémoire de Sophie Scholl, elle regarde sa date et elle voit qu'elles ont exactement le même âge et elle se dit, ouais. Eh bien voilà, deux jeunes filles du même âge, l'une est morte, résistante, et puis l'autre, comme moi, pour des raisons inconnues, je suis restée fidèle à Hitler et en plus, presque pas par mauvaises intentions, mais voilà, parce que la vie, c'est la vie.
Exactement, exactement. Alors, si vous permettez, je voudrais citer deux brefs témoignages du plus jeune et du plus âgé.
Bien sûr.
Le plus jeune. Donc, il s'engage, lui. Il s'engage dans le STO. Il a 19 ans. Et il annonce comme cela à sa maman. « Je t'aime de tout mon cœur. Mais j'aime Jésus-Christ encore plus que toi. Et je sens qu'il m'appelle pour être son témoin auprès de mes camarades qui vont vivre des moments difficiles. Pardonne-moi si je te fais de la peine. » Et le plus âgé, c'est le père jésuite, le père Victor Villard. Alors, de tous les 50, c'est le plus intellectuel. Bon, alors il a presque 50 ans. Et il a publié des quantités d'ouvrages, etc. C'est un intellectuel. Il écrit au moment de son arrestation. Je m'attendais depuis longtemps à cette arrestation. Elle est naturelle. Elle m'est arrivée le dimanche du bon pasteur, où il est dit que le bon pasteur doit donner sa vie pour ses brebis. Cela tombait à pic. Je voudrais bien que cela vous fasse comprendre combien notre religion doit être prise au sérieux et combien il faut la vivre. Alors, nous nous rendons compte que ces martyrs, quels qu'ils soient prêtres, religieux, militants d'Action catholique, ou scouts, ou séminaristes, ils ont vécu vraiment cette foi jusqu'au bout. Et c'est ce qui leur a donné un amour tellement fort de leurs jeunes contemporains qui sont allés jusqu'à donner la vie.
Alors, Père Bernard Ardura, permettez-moi de rappeler aux auditeurs de Radio Courtoisie, parce qu'il ne nous reste que deux minutes d'émission, que le 13 décembre dernier, 13 décembre 2025, le pape Léon XIV ayant signé le 20 juin précédent l'autorisation de déclaration de leur béatification, ont été donc béatifiés dans la cathédrale Notre-Dame de Paris, 50 martyrs de l'apostolat catholique, parmi lesquels figuraient 4 franciscains, un jésuite, 9 prêtres diocésains, 19 membres de la jeunesse ouvrière chrétienne, 14 scouts, 3 séminaristes, venus d'une trentaine de diocèses. Et comme je l'ai dit au début de cette émission, on peut encore se procurer l'ouvrage à l'origine, à l'initiative de cette cause de béatification dont vous avez été le postulateur, ouvrage de Mgr Charles Molette, décédé, ouvrage qui date de 1993, publié chez Fayard en haine de l'Évangile. Alors, pour terminer cette émission, Père Bernard Ardura, je voulais vous demander, le séminaire des Barbelés à Chartres, oui, avec l'abbé Franz, oui, Stock, oui, là aussi, on a quand même, au moment de la libération, le contre-exemple des exactions. Absolument. De l'épuration. On a quand même là aussi, la charité et l'espérance en action.
Absolument. Et alors, nous avons là, en effet, quelque chose d'important, parce que ce séminaire dit des Barbelés, j'ai noté, 950 séminaristes sont passés là entre 1945 et 1947 et 630 sont devenus prêtres. Donc c'était au moment de la fin de la guerre, comment préparer une nouvelle génération de prêtres qui seraient précisément, eh bien, d'ardents défenseurs et promoteurs de la paix. Et si vous le permettez, je voudrais simplement vous conclure par ce mot de Robert Schuman, un des pères donc de la réconciliation. Le christianisme a enseigné l'égalité de nature de tous les hommes, fils d'un même Dieu, rachetés par le même Christ, sans distinction de race, couleur, classe ou profession. La loi universelle de l'amour et de la charité a fait de chaque homme notre prochain, et sur elle reposent depuis lors les rapports sociaux dans le monde chrétien. L'amour ne passera jamais.
Merci beaucoup, Père Bernard Ardura. Je rappelle que vous étiez depuis Rome avec nous aujourd'hui. Un grand merci. Vous étiez le postulateur de la cause de béatification. Pour qu'il y ait canonisation, il faut un miracle. Alors n'hésitez pas, chers auditeurs, si vous avez besoin d'invoquer l'un d'entre eux, je pense que le Père Bernard Ardura sera ravi de savoir que vous avez été exaucé grâce à l'un d'entre eux. Donc je rappelle que ces 50 hommes ont été béatifiés le 13 décembre dernier, considérés comme martyrs du nazisme, martyrs de l'apostolat. Vous avez donné de nombreux exemples de leur merveilleuses paroles, et j'invite les auditeurs à se rendre près de Chartres, dans ce séminaire des Barbelés, puisque là c'est juste à côté de la région parisienne. C'est aussi un très bel exemple de pardon et d'espérance. Merci beaucoup mon père, chers
Merci
auditeurs,
à
mardi prochain, au revoir.
Venez d'entendre les mardis de la mémoire dirigée par Anne Collin, émission préenregistrée le 10 février 2026 et diffusée sur Radio Courtoisie mardi 17 mars de 10h à 11h et réalisée par Benoît. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libres, rendez-vous sur soutenir.rc.fr et accédez à l'ensemble de nos archives à partir de 5€ par an. Si vous le désirez, nous pouvons vous faire parvenir un enregistrement de cette émission. Commandez le CD-ROM pour le prix franc de port de 9€ ou 6€ seulement si vous êtes adhérent de notre association. Je vous rappelle notre adresse, Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris.